Stopless Hymns Town.
Voici les chroniques de Tony Web.
Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de vous présenter
la chronique de la semaine,
présentée aujourd'hui par
Moussa Ali Jamal.
Bonjour Monsieur Moussa Ali Jamal.
Bonjour.
Le sujet d'aujourd'hui est l'indépendance des Comores. La question est, que pensez-vous de l'État comorien pendant 32 ans d'indépendance?
On peut dire qu'au début de l'indépendance, les choses avaient commencé très bien. D'abord, on a eu un État fort derrière lequel le peuple s'est réuni. Les élites qu'on appelait communément dinosaures étaient très attachées, à quelques exceptions près, au respect des institutions. La communauté politique était très soudée. Le respect et la crédibilité de l'État, des fonctionnaires, étaient sans faille. L'État lui-même a réussi à se territorialiser et à se doter d'une architecture institutionnelle moderne. Il y avait un président fort qui gouvernait, un premier ministre qui concevait la politique générale et des ministres qui mettaient en œuvre l'action gouvernementale. Les gouverneurs représentaient l'État central au niveau des îles. L'éducation fonctionnait plus ou moins bien. Cela a duré pendant la période de 1975 à 1990 et donc représente l'âge d'or de l'État comorien. Mais cet âge d'or de l'État comportait en son sein une faille. Le peuple était donc introuvable. Le mode de recrutement, de circulation des élites et de dévolution du pouvoir s'effectuait non sur des critères méritocratiques, d'égalité de l'accès au pouvoir, mais sur des mécanismes de cooptation. C'était des mécanismes clientélaires. On peut dire que c'était un groupe, un seul groupe qui gouvernait et détenait le pôle du pouvoir. Les notables, les religieux et les hommes politiques formaient somme toute une sorte de polyarchie. Ce groupe a fortiori oligarchique se donnait comme objectif de renforcer l'unité. Le régime fédéral, c'est ça, c'est de réunir tous les Comoriens autour des mêmes valeurs, des mêmes symboles. Mais le problème de cet État était non seulement trop fort, mais surtout il s'est construit autour d'un parti unique, celui du président, qui a rendu l'idée d'opposition légale inconcevable. Et ça constituait à la fois une société de confiance ayant un sentiment d'appartenir à une même communauté des valeurs et une société de défiance négative ayant un sentiment d'inquiétude à l'endroit de ce pouvoir trop fort et par de trop inégalitaire et censitaire.
Ce qui a permis à Saïd Mohamed Johar de nommer des hommes nouveaux et de prôner le multipartisme.
Oui, il était à l'origine de la première vague d'expérience démocratique. Il voulait au départ transformer cette défiance négative d'inquiétude à une défiance positive, démocratique, d'expression et de participation. À travers les partis politiques, les associations, les médias dotés d'un pouvoir de contrôle, de surveillance et d'alerte. Il a appelé au multipartisme allant jusqu'à dire qu'une famille pouvait se constituer en un parti politique. Mais le problème de cette dissémination d'appareils politiques, l'électorat, source de conquête de pouvoir, se disperse allant même à la volatilité. Et l'électeur lui-même, face à cette forme de dissémination de partis politiques, a perdu les schèmes qui lient. Permettait de se situer et d'opérer un choix. Et par conséquent, il était devenu un bien rare, précieux, interchangeable à des monnaies. Dans ce contexte de volatilité, de dispersion, le gagnant était des partis les plus dotés des moyens économiques. Et il se trouvait que ceux qui en avaient appartenaient déjà à la catégorie contre laquelle Johar voulait imposer une alternative. En clair, le multipartisme a produit son contraire, a renforcé ceux qui avaient l'opposition dominante, et a rendu improbable l'idée d'alternance. Tout cela a fait que le multipartisme constituait une menace pour la reproduction et la circulation des élites et donc pour la représentation sociale. Il représentait un problème pour le bon fonctionnement des organes de prise de décision collective, comme la conférence nationale, ou même la gestion des élections. C'est pourquoi Mohamed Taki Abdelkarim est amené à réduire le nombre des partis. Mais en voulant réduire le nombre des partis, cela a été perçu par le moins démuni comme une sorte d'épée Damoclès, une stratégie les empêchant de se présenter aux élections via leur parti. Cela a produit une désaffection pour la méthode de recrutement des élites, et c'est à partir de là que certains désespérés politiques ont procédé à d'autres moyens non conventionnels de recrutement et d'ascension au pouvoir qui a conduit à la déterritorialisation de l'État.
Vous voulez dire que le séparatisme est lié à un problème politique et non économique ?
D'abord, il faut savoir que le séparatisme est à l'origine de plusieurs facteurs. Le développement d'une société composée par une somme de communautés de villages et non un corps social, la nature du parti unique qui a rendu inconcevable l'idée des positions, le multipartisme qui a rendu aléatoire l'efficacité des partis politiques, et enfin, dernièrement, l'élection des personnalités issues d'aucune institution de représentation qui marque l'extension des partis politiques. Tout cela fragilise profondément l'État devenu incapable à mettre en œuvre une refondation politique et sociale. Donc, à assurer une bonne circulation des élites. Mais aussi, l'absence de l'État dans les communautés primaires, la quasi-inexistence des corps intermédiaires, la difficulté d'établir des ponts de communication par des infrastructures entre les îles et le faible niveau d'instruction qui se rajoute à l'effondrement de l'économie rendent beaucoup plus difficile le travail de communion et d'inscription des groupes sociaux et des individus dans un socle de valeurs communes. Et c'est dire que le séparatisme n'est pas déterminé par des facteurs économiques, sinon on aurait dû avoir non un séparatisme mais une révolution sociale caractérisée par des luttes des classes, une révolution par le bas, parce que ce qui était le précurseur du séparatisme était des nantis qui avaient détenu les pôles économiques et dépourvu des positions politiques plus ou moins élevées.
D'accord. Et que faut-il faire pour renforcer l'État ?
À mon avis, il faut revoir les institutions, le mode de scrutin, les statuts des partis politiques, mais aussi les organes de contrôle et d'alerte, à savoir les médias et les associations. Pour aller vite, il nous faut un État de production capable de relancer la croissance économique en favorisant la création des entreprises, un État de redistribution des richesses en créant et renforçant les régimes sociaux, un État qui protège les plus faibles, les accidentés de la vie, les exclus de la société et qui réduit les inégalités sociales. Donc, un État instituteur social qui met au cœur de sa politique l'égalité des chances dans l'accès égal aux formations universitaires et aux services publics. Donc, un État démocratique, fort et moderne. Et ça, il faut des femmes et des hommes élus et nommés pour agir vite dès lors qu'on leur confie des responsabilités. Et en ce moment, on a l'impression que ceux à qui on a confié des fonctions électives souffrent d'un endormissement total, et il est temps qu'ils agissent vite et très vite, parce que quand on est délégué à une fonction de toute nature que ce soit, on entre en action dès lors qu'on est investi.
Eh bien, merci Monsieur Moussa Djamal, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Imatunga numai matunde.